Disons que les grands écrivains, tous les grands écrivains depuis 6000 ans, n'écrivent que pour faire une machine, que pour faire cette machine-là. Et ça, c'est bien difficile de vous faire comprendre ça ou de vous le faire même admettre. Parce qu'on ne vous a jamais dit ça. On ne vous l'a jamais dit. Vous avez fait 6 ans d'études, vous avez fait l'école primaire, vous avez fait... Après 6 ans d'études secondaires, et puis vous continuez vos études. Et personne jamais ne vous a dit que le but de l'art, entre autres de la littérature, de la musique, de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, c'est la machine, c'est une machine qui expliquerait toutes ces questions que vous m'avez posées, que vous avez posées vous-même. La vie, la mort, la liberté, l'esclavage, la religion. Y a-t-il quelque chose, y a-t-il une grille de l'univers cachée sous les choses, sous les événements, mais qui transparaît tout le temps par des retours, par des périodes, par des jours, des mois, des années, des cycles? Et comment fonctionnent ces cycles? Où est la place de l'homme dans cette crise? Eh bien ça, tous l'ont essayé. Gilgamesh, il y a 6000 ans, l'essayait déjà. La Bible n'est qu'une machine. Le Rig Veda, l'Apocalypse, la Divine Comédie, la plupart des pièces de Shakespeare, la plupart des grands poèmes de romantique et autres sont des machines ou des essais de machines. Et l'écrivain ou le poète ou le peintre qui n'est pas préoccupé de cette machine, son œuvre tombe à l'eau tout de suite. On n'en parle plus. Elle vit 50 ans, 100 ans maximum. Et je vous défie de me citer une œuvre vieille de 2 ou 3 siècles qui ne soit pas une machine. Évidemment, aujourd'hui, tous les romans que vous lirez ne font pas des machines, ça c'est sûr. Mais les plus grands, ceux qui durent, ceux qui vivent, sont des tentatives de faire la machine. Eh bien, cette tentative, Poe la découvre à, en somme, trentaine d'années quand il a 7-8 ans. Et toutes les nouvelles qu'il va écrire à partir de ce moment-là, Le Masque de la Mort Rouge, Le Puits et le Pendule, Le Scarabée d'Or, La Chute de la Maison Usher, vont être des machines, vont être des tentatives de machines. Et en fin de compte, un an avant sa mort, 2 ans avant sa mort, en 48, il fera cette machine, d'une manière un peu simpliste, un petit peu métaphysique, un petit peu simpliste, mais enfin nous verrons qu'elle n'est pas si simpliste que ça tout de même, et il appellera ça Eureka. Il mourra parce qu'il sera alcoolique, en fin de compte, et toute sa vie, il aura essayé de décrire dans plusieurs nouvelles, notamment et contre les effets de l'alcoolisme, et ça commencera très tôt. C'est-à-dire qu'il y a un vice qui le tient et qui, peut-être, explique et dirige sa vie. Et le premier conte qui m'est tombé dans les mains, c'était Bérénice, et ça raconte l'histoire d'une femme, toujours le bel amour perdu. Mais ce bel amour perdu, c'est en même temps le souvenir de l'enfance, la première enfance. C'était une cousine, c'était une amie très chère. Et Poe ne peut pas l'évoquer sans évoquer sa propre enfance. Éléonore, après, il parlera de la même façon de cette autre femme rêvée, poétique, Éléonore. Dans Bérénice, ce qui est intéressant, c'est que la clé du conte, c'est ce qui va rester, cette mort idéalisée, et ce qui reste, c'est les dents de Bérénice. Les dents. Il y a quelque chose de dérisoire, quelque chose de très éloigné de la notion d'idéal. Il reste quelque chose de dérisoire. Et dans toutes ces nouvelles, Poe dit pour la première fois une chose qui va lui tenir à cœur, qu'il va répéter souvent, c'est précisément qu'il y a 2 enfants. Il y a une enfance que les Bantous et que les peuples d'Afrique centrale appellent le BBO. BBO, c'est le bébé avant même le, l'enfant, avant l'âge de raison, bien avant l'âge de raison, c'est la, l'enfant qui est encore dans la nature, comme dans une eau, dans un fleuve, qui est dans la réalité. Et Pau dira que le monde, ce monde, ce paradis de première enfance, c'est le paradis vert. Il dira qu'il y avait dans son enfance un amour du vert, un sentiment du vert et une réalité du vert qu'il n'a jamais retrouvé ensuite. Alors ça, je peux vous attester que c'est vrai. Quand je dis que le vieillard retrouve l'enfance, eh bien, entre autres, c'est parce que je retrouve ce vert. D'une certaine manière, quand je vais me promener dans la campagne, je ne vois pas seulement ce vert, je ne le constate pas, je n'admire pas seulement les feuillages, les buissons. Je vis dans le vert, je vis dans une certaine plénitude que m'apporte cette couleur. Et qui disparaît entièrement. Pour dire, après, l'adulte, on ne trouve jamais cette nuance, ce vert, cette existence de vert. De la même manière que les poissons ne scintillent plus dans l'eau de la source, que l'oiseau perd la noblesse de son vol. Quand l'enfant vieillit, il perd le sens, un sens lui échappe, qui est peut-être la réalité même, et que la réalité la plus profonde, plus que matérielle. Les religieux et les ésotéristes appellent ça la substance. Et substance, on dit beaucoup plus que matière. Enfin, vous pouvez penser matière si vous ne comprenez pas le mot substance. Nous verrons que c'est pas tout à fait la même chose, parce que c'est bien une matière quand même, et où est le vert? C'est pas le vert. De toute façon, dans les classes, dans les villes, il n'y a plus de vert. Pour raconter ça, parce que il a perdu son père et sa mère très jeunes. Et il a été adopté, il s'appelait Edgar Poe, il a été adopté par la famille des Allen, A-2-L-E-N, et il s'appellera plus tard Edgar Allan Poe. Or, les Allen étaient de braves gens, mais ils n'avaient certainement pas, enfin ils n'ont pas évoqué la prodigieuse poésie qu'évoquait pour Poe sa mère, notamment, bon, très jeune, à 20 et quelques années, et qui était comédienne, et dont il a fait aussi peut-être cet idéal féminin qu'on retrouve à travers ces toujours mortes, tous ces fantômes vivants. C'est sa mère, c'est Elisabeth, bon, qui évoque ça. Et plus tard, il dira même, et c'est là qu'on commence à se tenir à comment s'intéresser, il donnera à son enfant, à sa naissance, une date antérieure. Et souvent, il fera partir son œuvre de 1796, c'est-à-dire plus de 10 ans avant, même 94, exactement certains comptent, c'est-à-dire 15-16 ans avant. C'est-à-dire, il fera partir son enfance, et ça c'est étonnant parce qu'évidemment on ne parle pas de gêne, hein, autant il y a 100 ans on ne parlait pas de gêne, mais il fait partir son enfance du moment où il pouvait y avoir quelque chose d'Edgar Poe dans le gène maternel. Il commence d'exister au moment où existait quelque chose de lui dans l'ovule maternel. Et plus tard, il considérera toujours qu'il ne peut pas y avoir d'enfance, cette première enfance miraculeuse, ce paradis vert. Il ne peut pas y avoir cette enfance s'il n'y a pas eu une avant-enfance. Et ça, c'est son époque. Peu de temps après sa mort, on verra des écrivains comme Samuel Butler, des écrivains comme Maeterlinck, et qui oseront parler du bébé ange. Et Butler ira jusqu'à dire dans son roman Erwhon, E-R-E-W-H-O-N, il ira jusqu'à dire dans Erwhon que ses enfants, ses anges-enfants, ont le choix de naître ou de ne pas naître. Mais Maeterlinck aussi le dira dans L'Ange Bleu, dans certaines de ses pièces. Bon, quelque chose poserez à ce jeune le problème, voulez-vous vivre ou non. On ne leur dirait pas tout, parce que si on leur disait tout, ils refuseraient de vivre. Mais enfin, on leur dira beaucoup de choses, de bon et de mauvais, de manière qu'ils aient l'impression d'avoir le choix. Et ça, c'est une pensée qui est très forte chez Pau, qui va revenir très souvent. J'ai été hanté par des souvenirs dont ensuite, en devenant homme, il dit viril, la virilité, en atteignant la virilité, j'ai considéré que ces souvenirs étaient des rêves. Et d'ailleurs, pour l'adulte, les adultes considèrent que ces souvenirs sont des rêves. Et ils les rejettent pour cette raison, ce n'est pas très important un rêve. Mais Pau dit, ce sont des souvenirs. Ce sont des souvenirs, et c'est pourquoi l'homme, l'adulte, est toujours hanté par la question « Mais comment ai-je pu commencer d'exister ?» Ce prend un grand problème des religions, et aussi de la science. Comment ai-je commencé d'exister ? Et il dit « On ne peut pas répondre à cette question parce qu'elle n'a pas de sens. On n'a jamais commencé d'exister. » Parce qu'avant le gène, il y a eu tous les mythes qui nous ont constitués depuis des millénaires. Comment ces mythes seraient-ils en nous s'ils n'avaient pas préexisté à l'existence? Moi, je sais que ma première enfance s'est achevée à 5 ans. Elle s'est achevée à 5 ans parce que je vivais chez mes grands-parents, au Croisic, dans ce royaume de Merne. Mes compagnons, c'était une chèvre, qui m'a nourri d'ailleurs, et un chien loup, pour un lion. Un petit peu, et avec cette chèvre et ce lion, j'allais me promener sur les plages, sur les dunes, dans les rochers de Croisic. Et je vivais, j'en suis absolument sûr, parce que Figuard se retrouve justement cette enfance. Je vivais dans les mêmes dieux, parmi les mêmes mythes qu'aujourd'hui je le fais dans ma campagne. Il y avait le vent, c'est un dieu, le dieu du vent. C'est Éole, c'est Ouranos, c'est un Lille. Qu'on a introduit finalement dans le signe de la balance. Et puis il y a la chèvre, la capère, puis il y a le lion. D'ailleurs, je suis un lion. Et puis il y a les géants. Les géants, c'était évidemment les potes, les pantalons, les hommes, mon père, mon grand-père, mon père, pour le petit enfant, qui ne va pas au-delà du genou, hein, de l'adulte, ou à peine au-dessus. Et c'était des géants, effectivement.